Le thème que j'ai choisi, c'est transformer en Christ. Alors, excusez-moi, je n'avais pas été mis au courant de Jésus-Christ a dit ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, que c'était votre thème. Mais je pense que ça va, vous allez arriver à faire un lien entre ce que je vais partager avec vous et puis ce thème-là, facilement, sans que j'ai besoin d'insister là-dessus. Donc, vous savez, c'est l'Alliance évangélique française qui, depuis 1846, l'Alliance évangélique française, qui depuis 1846 a inauguré ces semaines de prière qui concernent maintenant le monde entier. Et c'est des centaines de millions de chrétiens de diverses dénominations qui, dans le monde entier, marquent cette semaine de prière dans le partage et la communion entre les églises. Et le thème qui a été retenu cette année, c'est « Nous sommes transformés par la victoire du Christ ». Nous sommes transformés par la victoire du Christ qui vient régner en nous. Cette victoire, elle a été acquise par Jésus à la croix. Il est mort pour nous et il a ouvert une transformation pour nous. Quand nous croyons en lui et son esprit vient nous transformer. Il vient nous transformer. Nous constituons une communauté transformée par l'amour du Seigneur. Par l'amour de Dieu. Transformé en Christ. Transformé en Christ. On peut voir deux sens. Nous devenons des Christ, transformés en Christ, hein, et transformés dans le Christ Jésus, nous sommes transformés. Dans la foi, dans le Christ Jésus, nous sommes transformés. Vous avez vu que la France a perdu son triple A. Hein, nous avons perdu notre triple A. Apparemment, ce n'est pas si simple que ça, hein, pour les économistes et tout ça. Ça risque de créer des problèmes pour notre pays, etc. Ça marque une faiblesse dans notre économie, notre système. Alors, certains disent qu'il ne faut pas dramatiser, d'autres disent vous êtes bien au courant de ça. Triple A, on ne l'a plus, quoi. Et on peut se demander quelquefois si dans notre vie, il y a le triple A, notre vie avec le Seigneur. On est dans le triple A ou est-ce qu'on a été... un peu baissé d'un rang, deux rangs. Mais c'est dans la faiblesse que le Christ accomplit sa force, hein, toute puissante. Hein. Nous sommes appelés, je crois, à vivre dans le triple A, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par la force du Seigneur Jésus-Christ, par la victoire du Seigneur Jésus-Christ. On peut relire peut-être de trois textes, très rapidement. Galates 4, 19... Vous m'entendez bien comme ça?
Oui.
Galates 4, 19. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Un jour, il y a un homme qui arrive dans une petite ville, et puis il rencontre le maire, et il lui demande... Y a-t-il quelques grands personnages qui soient nés dans ce village? Et le maire a de répondre non, il n'y a jamais eu que des bébés qui sont nés ici. Il n'y a jamais eu que des bébés qui sont nés ici. Quand Paul parle de douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, je ne pense pas que son idée c'est que nous soyons des petits Jésus. Hein, on a fêté Noël là, généralement on met un petit Jésus dans la crèche, mais c'est que nous devenions des hommes et des femmes faits en Jésus-Christ. Dans Romains, chapitre 8, verset 29, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Conformes à l'image de son Fils. Être semblable à l'image de son Fils. Enfin, dans 2 Corinthiens 3, 18... Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc nous voyons ces trois versets qui nous parlent d'être formés, que Christ soit formé en nous, que nous devenions semblables à Jésus-Christ. Il ne s'agit bien évidemment pas d'une ressemblance physique. Hein. Certainement, il y a l'idée de, Un jour, nous revêtirons un corps glorifié, comme le Christ a été revêtu d'un corps glorifié lors de la résurrection d'entre les morts. Et nous vivrons pour l'éternité avec lui. Alléluia. Mais il y a aussi cette perspective d'un jour être glorifié. Nous travaillons aussi maintenant pour être transformés dans notre caractère, dans nos valeurs, dans nos principes de vie. Transformés pour être rendus semblables à l'image de Jésus-Christ. Amen. Rendus semblables à l'image de Jésus-Christ. Et j'aimerais évoquer quatre aspects en Jésus-Christ qui doivent se retrouver en nous et que le Seigneur veut développer en nous. La douceur, l'humilité, la bonté et la compassion. Triple A ou pas triple A dans nos vies? Douceur, humilité, bonté, compassion. Douceur, c'est pas la faiblesse. C'est pas on peut faire ce qu'on veut avec moi parce que je suis pas assez fort pour dire non. C'est pas la peur, mais c'est le tact, la sensibilité, la gentillesse, être agréable. La douceur, l'opposé c'est l'amertume, c'est la dureté. On parle de la douceur d'une voix. Je ne sais pas si j'ai une voix douce. D'un parfum qui est doux. D'un parfum qui est doux. De la peau d'un bébé. Vous aimez la peau d'un bébé? Il y a un beau bébé là-bas. J'ai une petite fille qui est née il y a 6 mois là. Malheureusement, je ne peux pas la voir parce qu'elle est loin de moi. Mais je vois sa peau et j'ai envie de la toucher parce que la douceur de la peau. La douceur de la peau. La douceur d'une lumière. La douceur d'une saison. D'une région. Être doux, facile, bon caractère, souple, on dit flexible maintenant aussi, hein, flexible. Prendre des précautions. Jésus reçoit les gens qui viennent à lui avec délicatesse. Avec délicatesse. Il a un mot, il les fait parler, il les rentre en dialogue avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort. Souvenez-vous quand il va dans le temple, qu'il sort ce qu'il a autour de la ceinture et qu'il commence à faire le ménage, là, c'était pas rien, hein, je veux dire, hein, c'était pas rien. Il y a des gardiens du temple, c'est créer du désordre dans le temple, il y a les Romains qui surveillent tout cela, c'est pas rien quand il fait cela. Il a la force pour faire cela. Mais il dira, je suis doux et humble de cœur, je suis doux. Notre Dieu est un Dieu qui est doux. C'est un Dieu qui est doux. Et je crois que le Seigneur attend que nous soyons doux. Doux les uns envers les autres, notamment dans la communauté chrétienne. Mais vous savez bien que si c'est que dans la communauté chrétienne, ça ne tient pas longtemps, quoi. Il faut qu'on soit doux en nous-mêmes. Dans notre maison, au travail. Il faut que le Seigneur nous rende doux. Nous adoucisse parfois, non ? Hein, nous adoucisse. Nous adoucisse. La Fontaine disait « plus fait douceur que violence ». Mais on retrouve ça dans le livre des Proverbes. Hein, l'action de la douceur est beaucoup plus efficace que la violence. Un proverbe persan dit « une main douce conduit un éléphant avec un cheveu ». Un proverbe russe dit « la génisse douce tête de mamelle ». Si elle est trop violente, elle ne peut pas têter de mamelle, on ne laisse pas faire. Hein. Christ formé en nous, la douceur en nous. Christ formé en nous, c'est je suis doux et humble de cœur, l'humilité. Et il n'y a pas longtemps, je lisais un petit ouvrage sur des commentaires sur le Bereshit au début, au commencement, le premier mot de la Bible, au commencement. Et dans ce commencement, il y a le mot Resh, qui parle justement de commencement. Et c'est intéressant de voir que le mot Resh, alors c'est une petite curiosité, hein, on ne fait pas de la théologie avec ça, mais je le cite quand même, c'est intéressant. Le mot Resh, il y a le mot R, il y a le mot Aleph, le A, il y a le S. Et sans, si j'enlève le A qui est au milieu, le R et le S, ça veut dire pauvre, faible, fragile. Et si je mets le Aleph au milieu, ça veut dire maintenant commencement, principe, fondement, premier même. Et ce Aleph, c'est le premier mot de Dieu, Elohim. C'est le premier mot de Dieu. Et je trouve ça très beau comme image. si je suis pauvre, humble, conscient de ma fragilité, et que Dieu est au cœur de ma fragilité, alors je deviens un premier, je deviens un fort. Ce serait pas beau ça ? Hein ? L'humilité. C'est intéressant aussi de voir que ce même mot, « rech », dans certains cas, il veut dire « poison ». Et j'ai envie de dire alors que celui qui n'est plus conscient du aleph qui est dans son cœur, ça peut devenir un vrai poison. Quand on n'est plus conscient que nous sommes faibles et que c'est Dieu qui nous permet d'être forts, alors on peut devenir un vrai poison. Être formé, Christ formé en nous, dans l'humilité. C'est C.S. Lewis, un penseur anglais, chrétien, qui disait que nous sommes, quand nous parlons de l'humilité, au fondement du christianisme. Nous sommes à l'épicentre de la morale chrétienne. D'après les docteurs chrétiens, le vice essentiel, le mal suprême, c'est l'orgueil. Impudicité, colère, avidité, ivrognerie et tout le reste ne sont que morsures de puce en comparaison. Morsures de puce en comparaison. Être humble. Être humble. L'apôtre Paul dira, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi départie à chacun. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis. Les commentateurs disent, il parle avec beaucoup d'autorité là. Il parle de la grâce qui lui a été donnée, sa grâce c'est l'apostolat. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis que chacun de vous. Souvent il dit, j'exhorte. Mais là il dit, je dis. Avec beaucoup de force, je dis. Il est l'apôtre et à ce titre, il peut écrire « Je dis que ». Je dis donc que chacun doit être à sa place, selon la mesure de foi départie à chacun. Chacun a reçu du Seigneur quelque chose. Vous savez, Jésus nous dit, chacun un talent, ou deux, ou trois, ou cinq, suivant ce qui plaît à Dieu de donner. Eh bien, l'apôtre Paul dit « J'ordonne à chacun de penser » qu'il a seulement sa mesure de foi, qu'il a reçu deux talents, qu'il ne fasse pas comme s'il en avait cinq ou dix, mais qu'il sache pleinement exploiter ce que Dieu lui a donné, comme cela nous a été rappelé en début de notre culte. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. C'est intéressant de voir comment l'apôtre Paul parle. Trop haute opinion de lui-même, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une mauvaise opinion de soi-même. Mais pas une trop haute opinion de soi-même. Et quelquefois, alors je ne sais pas, je ne connais pas votre communauté, je ne connais pas très bien vos églises, mais dans notre milieu pentecôtiste, je sais que quelquefois, j'entends, on ne vaut rien, on n'est rien, on est des nuls, mais le texte biblique ne nous dit pas ça. Nous avons été créés à son image. Et quelle merveille! Et ce qu'il fait en nous, eh bien nous devons rendre grâce pour ce qu'il fait en nous. Amen. Non, mais par contre, Paul dit, pas trop haute opinion de vous-même. Soyez humble, quoi. Soyez humble. La valeur de l'humilité. Christ formé en nous. Je suis doux et humble de cœur. La bonté. Ce qui est bon, dans le texte de l'Ancien Testament, c'est ce qui est utile, qui est apte à servir, qui a de la qualité. Ainsi, le mot hébreu est employé pour parler d'un outil, un bon outil. Un bon outil. Pour parler de la qualité des matériaux, de leur noblesse, celle des pierres précieuses, celle du bois, celle du fin lin. Pour parler aussi d'un joug qui est bien ajusté, en sorte qu'il ne blesse pas la bête. Quand on parle d'un individu qui serait bon, on voit que cela parle d'un individu qui est le bon individu pour telle ou telle action. Pour telle ou telle situation. Il me semble que c'est bien de se souvenir de cette idée. Bon égale qualité adaptée. Mais il faut aussi retenir le sens usuel, à savoir la délicatesse, la gentillesse, la générosité, l'altruisme, la préoccupation du bonheur et du bien-être de l'autre. C'est cela, être le bon homme, le bon homme, pardon, la bonne femme, hein, la bonne femme, la bonne dame, le bon chrétien qu'il faut être, altruiste. L'apôtre Paul dira, il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais il cherche l'intérêt du plus grand nombre, de l'autre. Dans la bonté, il y a une certaine forme de désintérêt pour soi-même en vue de l'autre. En grec, la bonté, c'est Christos. Et le Messie, c'est Christos. Hein, vous connaissez Christos. Hein. Et on a trouvé des documents du second siècle où les gens étaient tellement stupéfaits par l'attitude des chrétiens qu'on les appelait des Christianos au lieu de Christianos. Des Christianos, des bons, au lieu de Christianos. Et c'est un élément qui était très fort dans l'Église primitive. Et certains sociologues, historiens, disent que l'Église chrétienne primitive a pris tout son essor à cause de la bonté qu'il y avait, de l'amour que l'on se portait les uns aux autres, du soin que l'on se portait les uns aux autres, ce qui était quelque chose de tout à fait peu répandu à cette époque-là. Et ces valeurs maintenant sont importantes, mais ça vient du christianisme, hein, dans notre société. Christos, Christ formé en nous. Je finis avec la miséricorde. Jésus dira, je suis ému de compassion envers la foule. Ému de compassion, c'est relié aux entrailles, à ce qu'on a dans le... Ce qui s'émeut, aux entrailles de miséricorde de Dieu. Parce que vous avez, quelle version vous êtes, vous connaissez certainement tous la version des seconds, et il est question des entrailles de miséricorde de notre Dieu. Les entrailles, depuis Homère, ça désigne les parties nobles, le cœur, le poumon, le foie. Ce sont ces parties-là qui étaient dégustées dans les banquets sacrificiels. Vous trouverez ça chez votre boucher préféré. Hein, il doit bien y avoir des gens comme ça à Chinon, des bouchers qui font des bons trucs comme ça. Dans la Bible, ces entrailles de miséricorde, ça évoque ce qui est capable de s'émouvoir, ce qui en nous manifeste cette émotion, la capacité à être tendre. Originellement, le mot désigne le ventre de la maman, avec cette nuance de tendresse, de compassion d'une mère pour ses enfants. Entrailles de miséricorde, la compassion. Quelquefois c'est traduit par compassion. Dans les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, deux fois il est question de cette compassion, de cette miséricorde de Dieu, de ces entrailles de miséricorde. Une fois pour le bon samaritain et 9 fois pour Jésus. 9 fois pour Jésus. Être formé à l'image de Jésus-Christ. Il s'agit d'une émotion physique face à la souffrance. Il y a une compassion viscérale qui vous saisit. Il y a quelque temps, je relisais le texte de la dédicace du temple dans 2 Chroniques au chapitre 5. Et je voudrais vous le lire, 2 Chroniques au chapitre 5 et au verset 11. Les prêtres sortirent du lieu saint. En effet, tous les prêtres présents s'étaient consacrés sans tenir compte de l'ordre des classes. Tous les lévites qui étaient musiciens, Asaph, Eman, Jeduton, leurs fils et leurs frères se tenaient habillés de fin lin à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. « Il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. » Alors le temple, la maison de l'Éternel furent remplis d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. À quel moment la nuée descend dans le temple? Quand les sacrificateurs, les lévites disent « Dieu est bon car sa miséricorde dure à toujours ». Alléluia! Ça c'est très encourageant, non? C'est pas parce qu'ils ont dit « Dieu est un grand Dieu sévère et dur, qui pourrait tenir devant lui ?» Mais c'est quand ils ont dit « Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours » que la gloire de l'Éternel est descendue. Alléluia. La compassion du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, c'est notre salut. Hein? C'est notre salut. Et Christ formé en nous, c'est aussi des gens qui ont cette compassion et cette miséricorde du Seigneur. Alors le triple A dans nos vies, quant à la douceur, quant à l'humilité, quant à la bonté, quant à la miséricorde. Peut-être qu'il n'y a pas le triple A, peut-être qu'il n'y a qu'un A, peut-être qu'il n'y en a que deux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est tombé là. Et cette semaine, j'ai entendu cette phrase qui m'a beaucoup frappé. Quand un arbre tombe, ça fait beaucoup de bruit. Mais quand la forêt pousse, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien qui se passe. On voit facilement ce qui ne va pas, mais ce qui grandit dans le silence, il faut ouvrir les yeux pour le voir. Et Dieu fait son œuvre en nous, frères et sœurs. Quelquefois, il y a des moments où on n'a pas été doux, mais il y a quand même eu des progrès dans votre vie, non ? Vous n'êtes plus que comme quand vous avez découvert l'Évangile. Il y a du travail qui s'est fait en vous. Et maintenant qu'on n'est plus doux, vous dites, oh là là, j'aurais pas dû faire ça. Maman, vous auriez dit, c'est normal. Parfois, il y a quelques comportements qui peuvent mériter que l'on baisse le triple A. Mais écoutez ce que dit Paul, et je finis avec ce verset. J'ai l'assurance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Ce qu'il a commencé à nous former pour que nous ressemblions à Christ, il l'achèvera. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse chacun d'entre nous.